France Culture, grand reportage, Tarrache les gueules.
À cause de ce que l'on dit dans les médias du père Riddick, les gens s'étonnent d'apprendre que l'on étudie dans cette école. On pense qu'on nous lave les cerveaux ici.
Quand on observe ce que ces gens partagent sur les réseaux sociaux, ils s'expriment contre l'avortement, contre la liberté des femmes de décider de leur corps. C'est une vision très archaïque de la famille à laquelle ces gens-là s'agrippent.
C'est une église qui devient une secte, une église bien hérétique, à vrai dire.
C'est un pays dans lequel les prêtres ont tout récemment brûlé des livres de Harry Potter et un parapluie de Hello Kitty ainsi qu'une idole hindoue. Un pays dans lequel les recteurs d'académie nommés par le pouvoir vérifient que la religion est bien enseignée dans chaque école. Un pays où de façon systématique les fêtes publiques organisées par l'État commencent par une cérémonie religieuse. Un pays où le Christ a récemment été couronné roi, c'était en novembre 2017, en présence du président de la République et où se dresse la statue de Jésus la plus haute du monde. Dans ce pays, la Pologne, où 95% de la population se déclare croyante, les ultra-catholiques disposent d'une arme de choix, un empire médiatique dont la première pierre fut posée en 1991 par le père Tadeusz Rydzyk et qui n'a cessé de s'étoffer. À Radio Maria se sont ajoutés un quotidien, une chaîne de télévision et même une école de journalisme qui envoie ses étudiants en stage dans les ministères. Symbiose, alliance, intérêt bien compris, l'Église a soutenu le retour au pouvoir du PiS, le parti Droit et Justice, en 2015. Des évêques ont même indiqué la couleur du bulletin qu'il fallait mettre alors dans l'urne. Et depuis 4 ans, le PiS mène, lui, une politique ultra-conservatrice sous l'impulsion évidente de la frange la plus extrême de l'Église. Pologne, l'empire médiatique du père Rydzyk, c'est un reportage signé Maria Szymanowska. Pour écouter et commenter ce grand reportage, nous avons invité Audrey Kiszlewski. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg et vous êtes l'auteur, enfin vous venez de publier l'année dernière, un livre intitulé « Les survivants » qui est paru aux éditions Belin. Et nous sommes bien sûr avec Maya Szymanowska. Bonsoir Maya.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en Pologne et vous avez eu envie d'enquêter sur Radio Maria, sur l'influence du père Tadeusz, qui n'est pourtant pas nouveau dans le paysage.
Oui, il y a déjà 10 ans, je suis allée à Toruń, au moment où ce père Rydzyk lançait son école supérieure de la culture sociale et médiatique. Il m'a semblé important d'y revenir, car le statut de ce prêtre a changé. Père Tadeusz est devenu une pièce maîtresse sur l'échiquier politique de la Pologne actuelle et une voix qui compte au sein de l'Église, même si ce n'est qu'un simple prêtre, il n'est même pas évêque. Alors je voulais mesurer cette ascension, cette évolution, dans son fief même, la ville de Toruń.
Ville de Toruń, nous partons tout de suite pour écouter votre reportage.
Le train quitte la gare centrale de Varsovie pour prendre la direction de Toruń. Située à quelques 200 km de la capitale polonaise, la ville natale de Nicolas Copernic, longtemps symbole des Lumières de la Raison, est un bijou de l'architecture médiévale dont les bâtiments colorés épousent les cours de la Vistule. Les touristes se pressent dans les petites rues pavées de la vieille ville, visitent ses cathédrales et le musée Copernic. Toruń attire aussi beaucoup d'étudiants grâce à son université prestigieuse qui porte le nom du grand astronome de la Renaissance. Mais depuis 30 ans, Toruń est devenu le fief de la nouvelle éminence grise des conservateurs. Le père Tadeusz Rydzyk, rédemptoriste ultra-catholique à la tête d'un vaste empire médiatique composé d'une radio, Radio Maria, d'une télévision, la télévision Trwam, ce qui veut dire « je persiste », d'un quotidien Nachdziennik. Si le prêtre le plus influent de Pologne a quelque chose à dire, il s'exprime dans l'un de ces médias qu'il a créés et qui sont devenus le tube de propagande des ultra-catholiques et ultra-conservateurs. C'est aussi à Toruń que le père Rydzyk a bâti son école supérieure de la culture sociale et médiatique qui produit chaque année des légions de jeunes journalistes aux ordres de leur gourou qui travaillent dans tous les médias catholiques du pays. Depuis le centre-ville, il faut prendre un taxi ou un bus pour arriver au sanctuaire fondé par le père Rydzyk. Comme chaque dimanche soir, à 19h, la messe est dédiée aux étudiants de son école supérieure de la culture sociale et médiatique, située à deux pas. Le sanctuaire flambant neuf a de quoi imposer. Une statue géante de Jean-Paul II accueille les croyants. Un immense dôme coiffe l'édifice. L'église dédiée à la Vierge et au pape Jean-Paul II a été consacrée en 2016 en présence d'un envoyé du pape François, de 50 évêques et de tout le gouvernement. Ce soir-là, l'église est pleine de jeunes. Après l'office, ils regagnent les dortoirs. 300 mètres séparent la cathédrale de l'école, double d'un internat. Seules deux jeunes femmes de 19 et 20 ans sont d'accord pour parler au micro, mais pas pour donner leur nom.
Ça dépend. Est-ce que vous voulez mal parler de notre école? Comment vous voulez la présenter?
En première année de journalisme, les deux amies ne sont pas originaires de Torougne. L'une vient d'un village du nord du pays, l'autre des contreforts des Tatras au sud de la Pologne. Pour toutes les deux, cette école est une véritable chance de carrière.
Je me suis basée sur l'opinion des personnes qui étudient ici. L'école offre beaucoup de possibilités pour les journalistes. On a un accès à la radio, à la télévision, et les étudiants peuvent y faire leurs preuves.
Oui, moi aussi, ce qui m'a motivée, ce sont ces opinions positives. On m'a dit que cette école garantit de trouver du travail grâce à un solide stage pratique. La radio et la télé sont accessibles et déjà durant les études, on travaille dans de vrais médias.
L'école est en effet réputée pour offrir des conditions matérielles de rêve, avec caméras et studios d'enregistrement flambant neufs et des débouchés de travail sûrs. En plus de la télévision entre femmes, de la Radio Maria et du quotidien Najdienik, les étudiants peuvent bénéficier de stages et embauches dans les puissants médias publics, désormais sous la coupe des conservateurs. L'université du Père Rizek, comme on l'appelle communément, s'appuie sur le programme Erasmus et offre des parcours d'études variés, depuis la licence jusqu'au doctorat. Les filières privilégiées sont le journalisme, l'informatique, mais aussi les sciences politiques et, tout nouvellement, des études d'ingénieur.
Je ne ressens pas d'endoctrinement lors des cours. À part les valeurs chrétiennes, je n'ai pas l'impression que l'on essaie de nous faire passer un message politique. On nous enseigne plutôt une vision critique des choses, analyser la réalité et les actualités, mais on ne parle pas beaucoup de politique lors des cours.
Le Premier ministre Mateusz Morawiecki y vient pourtant volontiers donner des conférences comme d'autres hommes politiques du gouvernement conservateur. Les deux étudiantes avouent être des auditrices fidèles de la Radio Maria et connaissent bien l'émission politique phare de cette radio intitulée « Les conversations infinies ».
À cause de ce que l'on dit dans les médias du père Rizik, les gens s'étonnent d'apprendre que l'on étudie dans cette école. On pense qu'on nous lave les cerveaux ici. On me demande comment je peux étudier ici. Ils se focalisent sur le personnage du père Tadeusz. Mais la vérité, c'est qu'on ne le voit pas tous les jours. On étudie plein de choses ici. Ce sont des études comme ailleurs.
Nous avions un cours avec lui intitulé « Pédagogie des médias de masse ». Qu'est-ce qu'on y apprenait? La division des médias, les différentes sortes de manipulations, tout cela basé sur le livre de l'évêque Adam Lepa, « Le monde de la manipulation ». C'est notre lecture obligatoire.
Une lecture qui est tout un programme. Pour l'évêque en question, une véritable guerre de médias se déroule aujourd'hui. L'ecclésiastique n'hésite pas à stigmatiser les médias qui s'appuient sur un capital étranger, comme c'est le cas de la plupart des médias indépendants en Pologne. Seule l'Église peut avoir une réponse aux fake news comme gardienne de la vérité, selon l'évêque Lepa.
Ce qui est enseigné ici est lié à la foi catholique. Alors c'est normal que je me sente proche de ce que peut m'offrir la droite. Il y a des partis qui soutiennent des valeurs contraires aux valeurs catholiques, qui ne sont pas pro-famille ou pro-life. Je ne pense pas que l'Église catholique devrait les soutenir. Nous sommes catholiques, nous avons nos valeurs, nos règles.
Les deux jeunes filles invitent deux cancers à visiter l'école pour s'en faire une idée. Toutes les deux s'insurgent contre les critiques visant leur établissement. Mais pénétrer l'enceinte de l'académie du père Rizik n'est pas chose facile. Le bâtiment des cours et le dortoir sont ouverts. Mais le Cerbère à l'accueil bloque toute tentative de visite des lieux et m'oriente vers le bâtiment situé au centre-ville qui abrite l'administration et l'équipe enseignante. À l'adresse indiquée, on ne me laisse pas entrer quand on entend que je viens d'un média étranger, à la grande surprise d'un jeune étudiant de première année de l'informatique des médias qui trouve l'équipe extrêmement sympathique. On me renvoie à la Radio Maria, c'est là que tout se décide, m'explique-t-on via l'interphone. Nous entrons donc dans le fief du père Rizek, sa Radio Maria, la radio qu'il a fondée en 1991. C'est ici que tout a commencé. À l'entrée, une grande pancarte avec le dessin de la Vierge et ce slogan « Radio Maria vous accueille chaleureusement ». L'accueil est effectivement très sympathique et c'est avec de larges sourires que l'on m'éconduit gentiment. Impossible de discuter avec les responsables, tout comme le père Rizek, ils ne s'expriment que via leurs médias propres. Les bâtiments sont modernes, tout respire l'opulence et la propreté. Dans le hall d'entrée, des caméras et moniteurs surveillent les environs. Radio Maria ressemble finalement plus à une citadelle assiégée qu'à un média ouvert. Impression renforcée par le texte écrit en lettres écarlates dans la cour. Depuis le début, on nous attaque avec des mensonges antipatriotiques et anti-évangéliques. Nous sommes dans la cour de justice et on va dans une salle d'audience. Et il est vrai qu'il ne faut pas trop attaquer le père Rizek, qui s'y risque à rapidement affaire à la justice, même s'il s'agit d'un ancien Premier ministre, Włodzimierz Timoshevich. L'ancien chef du gouvernement est poursuivi par un des fidèles lieutenants du père directeur, comme on l'appelle ici, pour insultes et outrage. La séance se déroule au tribunal de Toruń, à quelques centaines de mètres du siège de la radio, et tous les médias du père Rizek étaient présents à la séance. Le juge a décidé de poursuivre de nouvelles enquêtes sur le sujet. En face du tribunal se situe le département des sciences humaines de la prestigieuse université Nicolas Copernic. Et les jeunes étudiants ne sont pas ravis que leur ville commence à être associée en Pologne à l'empire du père Rizek. Veronika Polichrowska est étudiante en troisième année de la culture des médias.
Dans les rues, je n'ai jamais tellement croisé les gens qui étudient à l'école du père Rizek. Cela doit être dû au fait que cette école est loin du centre-ville et les étudiants ont plus de difficultés à faire le trajet pour y passer la soirée. Donc on ne les croise pas souvent, ni dans les bars, ni dans les clubs en ville.
Veronika a pourtant rencontré plusieurs recrues du père Rizek quand elle était encore au lycée.
Je suis allée avec mon lycée aux portes ouvertes de l'école du père Rizek. Je peux témoigner que le matériel technique mis à disposition des étudiants est vraiment haut de gamme. Je pensais que c'était une blague, cette rumeur de devoir produire une attestation de sa paroisse pour pouvoir entrer dans cette école. Mais les étudiants m'ont confirmé que c'était réellement nécessaire. En tant que non-croyante, je ne pouvais pas obtenir une telle attestation. Et là, j'ai vu les effets de l'endoctrinement politique des élèves. Quand on observe ce que ces gens partagent sur les réseaux sociaux, ce sont des contenus très extrême droite. Il est difficile de discuter avec eux. Ils sont très marqués politiquement à droite. Ce jour-là, j'ai fait la connaissance d'un jeune qui fréquente cette école. On a discuté un moment et puis on est devenus amis sur Facebook. Quand je regarde sa page de temps en temps, je vois des posts et cela me fait rire, mais finalement pas trop. Il s'exprime contre l'avortement, contre la liberté des femmes de décider de leur corps. Il y a des stéréotypes, des relations hommes-femmes, l'homme domine, la femme doit se soumettre. C'est une vision très archaïque de la famille à laquelle ces gens-là s'agrippent. Leurs points de vue sont rétrogrades.
Michał a 25 ans et est doctorant en sociologie. Michał est né à Toruń, c'est là qu'il compte faire carrière. Très croyant, il est pourtant très inquiet aussi par la place prise par l'église que représente le père Rizek.
Je ne suis pas un auditeur de la Radio Maria. Même si j'habite tout à côté de la rédaction, je ne l'ai jamais visité et je n'ai jamais écouté d'émission de cette antenne. C'est un sujet controversé. D'un côté, c'est la seule radio catholique pour les uns. Pour les autres, c'est une radio trop marquée par la politique. Moi-même, je suis très lié à l'Église catholique. Je suis croyant et pratiquant. Mais un sage a bien inventé la séparation de l'Église et de l'État. Et selon moi, l'Église ne devrait pas se mêler de politique. Et c'est un problème dont on parle souvent en Pologne. Les médias catholiques ont un auditoire particulier, d'accord, ils portent un message, mais pourraient le faire d'une façon moins marquée que ce que fait Radio Maria. Et j'aimerais vraiment que ma ville, Torun, soit identifiée à Nicolas Copernic plutôt qu'au père Rydzyk. J'ai l'espoir que c'est une église minoritaire. Je suis très lié à ma paroisse. J'ai longtemps été enfant de cœur et j'ai toujours préféré cette église prônée par le pape François. L'église ouverte, qui tend la main, qui tend les bras, qui veut aider, qui est proche des croyants, qui unit au lieu de diviser.
L'église représentée par le père Rydzyk était en effet encore minoritaire il y a peu. Du vivant de Jean-Paul II, le père rédemptoriste n'était pas un personnage connu, éclipsé par l'étoile du pape polonais, qui a toujours été très aimé en Pologne. Le sociologue Ireneusz Krzemiński de l'université de Varsovie suit depuis ses débuts l'évolution de l'empire médiatique du père Tadeusz. Il a conduit des études sur la Radio Maria et ses auditeurs.
Prenons l'exemple d'un quotidien catholique très populaire qui s'appelle Dimanche Niedziela. Il y a 15 ou 20 ans, il était impensable qu'il cite les propos du père Rydzyk ou qu'il reprenne des articles entiers de Nasz Dziennika, le journal du père Rydzyk. Aujourd'hui, cela arrive fréquemment. L'influence du père Rydzyka est devenue évidente sur les intellectuels catholiques, les journalistes, sans compter les évêques.
À Torun, le personnage du père Rydzyk ne laisse personne indifférent. Il n'est pas étonnant que le couple de metteurs en scène et scénaristes Marcin Kanski et Aneta Goszczyńska ont choisi de consacrer une pièce de théâtre au personnage sulfureux du père directeur. La pièce s'intitule « La naissance de l'ennemi », un spectacle théâtral sur le personnage de l'ecclésiastique nourri par les citations puisées sur l'antenne de la radio. Philippe Perkowski incarne magistralement le père Rydzyk comme une sorte de voyou débrouillard et manipulateur qui réussit à fonder sa secte.
Allez. Il faut que l'on fasse quelque chose ensemble, que l'on chante ensemble. Vous voulez me connaître mieux ? Non ? Alors pourquoi vous venez au théâtre ? Pour entendre que je suis mauvais ? Mais ça, vous le saviez déjà. Ce n'était pas mieux de rester chez vous, regarder Netflix, faire la liste des courses pour demain ? Ah ! Madame est féministe. J'imagine que c'est le mari qui fait les courses. Mais mettons de côté ces animosités, mes très chers. Vous voulez me connaître mieux ? Il faut que l'on chante ensemble. Que je prenne soin de vos âmes. Attention. Hé, monsieur, pourquoi vous vous êtes crispé ? Je ne vais tout de même pas vous forcer à chanter des psaumes. Non, je suis tout de même pas un catho débile. Attention. Allez, les gauchos. Après, pour la droite, je vais chanter un petit psaume, mais maintenant, les gauchos, allez!
L'humour, souvent noir, s'invite beaucoup au spectacle à la naissance de l'ennemi. On rit, souvent en larmes, mais on a surtout la chair de poule. Le scénariste et reporter Marcin Kanski a dressé un parallèle entre la radio Maria du père Rydzyk et la radio rwandaise, la RTLM, une radio accusée d'avoir encouragé le génocide des Hutus. Explication de Marcin Kanski.
Quand je me suis mis à écouter la radio Maria pour préparer le spectacle, je me suis rendu compte que tout ça, je l'ai déjà entendu quelque part. Cette mélodie, ces mots, cette manière de construire son identité, je l'ai entendu à l'antenne de la radio rwandaise, Radio Les Mille Collines, qui en 1993, en quelques mois, a tellement polarisé le conflit entre Tutsi et Hutu qu'elle a été l'instrument du génocide. Voir l'une de ses causes. Je me suis rendu compte que le langage de la radio Les Mille Collines, fondé sur la haine et sur la construction de son identité contre un ennemi, est le même que celui utilisé par Radio Maria. Si on prenait des citations de l'une ou l'autre radio, sans indiquer l'origine, on ne pourrait pas dire de quelle radio elle venait. Et je me suis posé la question, et si en Pologne, l'État s'affaiblit pour disparaître? Si tout d'un coup, il n'y avait plus de sanctions? Une situation similaire a déjà eu lieu en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les prêtres ont commencé depuis leur chair à décrire les Juifs comme de la vermine qui rongerait la bonne âme polonaise. Les pogroms ont commencé juste après. Des voisins polonais ont assassiné leurs voisins. Ma question, si la radio au Rwanda a permis le génocide, à quoi devons-nous nous attendre avec Radio Maria?
Un parallèle bien osé, étant donné la susceptibilité du père Rydzyk, le spectacle a été déjà condamné sur les ondes de la radio et un des proches de Tadeusz a déposé une plainte au parquet, sans parler du flot de messages haineux envoyés par Internet. Mais cela ne fait pas peur à l'auteur du scénario, Marcin Kątski.
Quand je me lève le matin, si je ne trouve pas de message haineux dans ma boîte mail, je vérifie si mon cœur bat encore. C'est mon quotidien. Des menaces de mort, des messages de haine, fondés sur une complète incompréhension. Mais il est vrai que par le passé, c'était des messages isolés. Depuis quelques années, le retour des démons nationalistes et fascistes, c'est devenu la norme, mon quotidien. Le seul jour où Internet ne vomit pas sa haine, c'est le dimanche, où tout le monde est au marché ou à la messe. Si je dois comparer les menaces que je reçois depuis plusieurs années, celles du passé étaient anonymes. Ce qui me fascine le plus, ce n'est pas le changement de vocabulaire, mais l'abandon de l'anonymat. Il y a quelques années, ceux qui me menaçaient de mort ou exprimaient leur antisémitisme mettaient des cagoules. Aujourd'hui, ils les enlèvent. Cette haine a soudain un visage, celui d'une femme au foyer, celui d'un chauffeur de taxi, celui d'un professeur d'université. C'est ce qui est incroyable. La haine ne se cache plus. Ces gens s'expriment en leur nom, en tenant leurs enfants dans les bras, en postant des photos sur Facebook. Et c'est ça qui me pousse à poser la question de l'après. Car selon beaucoup de sociologues, d'historiens, de spécialistes de l'Holocauste, le pire moment où tout peut basculer, c'est quand les gens n'ont plus honte de haïr.
Ludzie przestają się wstydzić tego, że nienawidzą.
Ce que montre le spectacle est la mise en place de la machine idéologique du père Rydzyk, fondée sur la construction d'un ennemi et l'union de ses fidèles contre cet ennemi imaginaire. Cela peut être un juif, un allemand ou un homosexuel. Analyse de ce phénomène par le sociologue Ireneusz Krzemiński.
L'une des fiertés de 1989 en Pologne, gagnée par le syndicat Solidarność, était cette liberté d'expression. Le fait d'accepter une opinion opposée sans la combattre, respecter ceux qui ont des opinions différentes sans les considérer comme nos ennemis. Ce statu quo disparaît complètement dans la Pologne contemporaine. Pour le père Rydzyk, l'ennemi est partout. Le juif est historiquement notre ennemi, ainsi que l'allemand. Aujourd'hui s'y ajoute le russe, ainsi que les personnes d'une orientation sexuelle différente. Bref, toute personne qui contredit les valeurs catholiques. L'ennemi est le cœur de la philosophie de cette radio catholique.
Wrogość w sercu katolickiego radio.
Ce qui a changé profondément depuis 20 ans, c'est l'approche de la hiérarchie ecclésiastique face à l'empire grandissant du père Tadeusz. Ignorant le petit père rédemptoriste, les évêques polonais ont appris à le craindre, voire à l'admirer. Ireneusz Krzemiński évoque l'une des raisons de ce changement de cœur.
Kościół, do którego odwołuje się ojciec Rydzyk od początku, to jest kościół obdarzony autorytetem.
L'église vue par le père Rydzyk est une église autoritaire. C'est une vision de l'Église qui détient un pouvoir, une influence sur les affaires de l'État et qui dicte l'ordre social. C'est une vision très séduisante pour la hiérarchie ecclésiastique polonaise. Car les évêques se disent, si on mise sur la liberté, si l'Église s'ouvre au débat, comme ce fut le cas dans les années 80 lors de la lutte contre le régime communiste, alors on aura très vite ce qui se passe en Occident. Une église minoritaire, sans pouvoir. Et selon moi, c'est la raison profonde de l'antilibéralisme de l'église du père Rydzyk, magnifiquement soutenue par la tradition et approfondie par elle. Et les évêques veulent revenir au schéma conservateur pour tenir tête à cette maladie qui ronge l'église en Occident.
En effet, il y a peu, la voix de l'Église était portée par les intellectuels de Cracovie, proches de Jean-Paul II, réunis autour de l'hebdomadaire Tygodnik Powszechny et de la maison d'édition Więź, Le Lien. Aujourd'hui, éblouie par le succès du père Tadeusz, une partie de l'Église catholique a fait un virage à droite. Un virage qui bouleverse l'équilibre social et divise les familles polonaises, même celle de l'auteur de la pièce de théâtre Marcin Gonski.
Chez moi à la maison, ma mère vote pour les ultra-conservateurs de droit et justice. Et mon père pour la plateforme civique, c'est-à-dire les libéraux. Et il leur arrive de s'arracher la télécommande, car ils n'ont qu'une seule télé. Et ma mère veut regarder la propagande conservatrice. Et mon père, appelons-la aussi propagande, le libéral. Et moi je me retrouve au milieu de cette réalité schizophrène. Si ma maison est divisée, il est probable que d'autres le sont aussi. L'un des éléments de notre spectacle, est la scène du réveillon de Noël, le réveillon polonais catholique typique, qui est en fait une réflexion sur la solitude et les divisions.
Le secret du succès du père Rydzyk, bien saisi par les auteurs de la pièce de théâtre, a été de se rapprocher des gens qui se sentaient oubliés par les transformations profondes que subissait la Pologne après la chute du communisme en 1989. Le père Tadeusz a ouvert l'antenne à ses auditeurs, à tous ceux que l'on n'écoutait pas, à ceux qui cherchaient un endroit à dire leur frustration et leur peur devant le nouvel ordre économique en Pologne. L'espace de la scène de théâtre est divisé en trois lieux, le studio radiophonique, la chambre du père Rydzyk et le lieu de l'écoute de la radio par excellence, la cuisine. Aneta Goszczyńska, la metteuse en scène, explique ce dispositif.
Le troisième espace est celui de la cuisine de l'une des auditrices de la radio Maria. Elle demeure sur scène tout au long du spectacle et observe tout ce qui s'y passe. Elle est l'un des personnages principaux. Le spectacle pose la question de l'après. En fonction de ce qui lui arrive, deviendra-t-elle une fanatique de la Radio Maria? Le père directeur prendra-t-il son âme? Ou arrivera-t-on à la sauver? C'est la question des divisions au sein des familles qui passent le long des tables de réveillon. C'est d'ailleurs la scène d'un réveillon qui clôt la pièce. Un Noël 2019 en Pologne qui se déroule en compagnie de Radio Maria. L'un des dispositifs importants du spectacle, ce sont les téléphones des auditeurs. Et nous avons invité des seniors retraités de Torun à venir travailler avec nous et enregistrer ces coups de fil. Nous avons beaucoup échangé quand ils sont venus. Ils devaient lire et improviser sur les téléphones des auditeurs de Radio Maria. Ils ont réussi magistralement. Ils savaient très bien comment jouer ces coups de fil, comment poser la voix. C'était même assez terrifiant de voir avec quelle facilité ils ont incarné sans fausse note la manière de parler propre aux auditeurs de Radio Maria, pétris de frustration, dénués de suite logique, utilisant des expressions toutes faites qui reviennent souvent sur l'antenne de la radio. J'ai découvert que le style du téléphone d'un auditeur à Radio Maria est devenu une forme connue.
Allô, allô, Deux de ces retraités ont accepté de venir me rencontrer au théâtre. Johanna, très enthousiaste à propos de la Radio Maria, a jadis chanté dans le chœur formé par le père Tadeusz.
Il a fait beaucoup de bien à ses débuts. Les sermons et les prêches pour les malades qui ne pouvaient pas aller à l'église d'eux-mêmes. Une telle personne allume maintenant la radio et la télé et elle peut voir la messe sans bouger de chez elle. C'est très bien ça. Bon, il y a aussi des points négatifs. Qu'est-ce qu'on peut critiquer? Peut-être un peu trop de politique. Mais il a fait tout ça pour nous, pour les gens. Il ne faut pas être si négatif. Moi, je ne connais rien à la politique. Je n'ai pas la télévision, je n'écoute pas les émissions politiques.
La collègue de Johanna, une ancienne comptable, est beaucoup plus critique. Les deux dames finissent par se chamailler quand Johanna chante un peu trop les louanges de l'école médiatique, accessible aux plus modestes, selon elle. Réponse de sa collègue.
Ne m'énerve pas, arrête de raconter n'importe quoi. Où tu as vu les pauvres suivre les cours dans cette école? Le semestre coûte 2000 zlotys, 500 euros. Et tu dis que les enfants pauvres y étudient? Arrête tes salades.
Le semestre coûte effectivement 1800 zlotys, soit quelque 413 euros. Les étudiants interrogés ont confirmé qu'ils payaient bien l'école. Le père Rydzyk est passé maître dans l'art de gagner l'argent. Cependant, il le fait moins en faisant payer les élèves qu'en faisant appel aux dents de ses fidèles. À l'antenne de la radio, après chaque programme de télévision, un appel aux dents est lancé. Le numéro de compte de l'ordre rédemptoriste apparaît presque aussi souvent que le nom de Dieu. Allons maintenant à la source, écoutant un des médias du Père Rydzyk, la télévision Trfam, à l'heure de grande écoute. Dans le studio, le représentant de la fondation Maman et Papa, Marek Grabowski. Il commente une actualité, le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, vient de signer la charte du respect des droits des minorités sexuelles, promulguée par l'Organisation mondiale de santé.
Ce qui est inscrit dans cette charte va à l'encontre du développement naturel de l'enfant et viole ce qui est pour lui important, son intimité, en introduisant des éléments qui sexualisent l'enfant de 3, 4, 5 ans. Prenez l'exemple, l'introduction de l'apprentissage de la masturbation aux enfants de 4 ans. C'est un scandale. Ou l'apprentissage de la négociation des relations sexuelles aux adolescents. Mais c'est quoi cette idée?
Il en va sans dire que le maire de Varsovie n'avait aucune envie d'enseigner la masturbation aux enfants, mais le sujet de l'homosexualité est un des thèmes de prédilection des médias de Père Rydzyk, ce qu'explique le sociologue Ireneusz Krzemiński.
Je peux vous citer un article de Naszedichnika, un des journaux du Père Rydzyk. Un prêtre, avec le titre du professeur, écrit: nous avons affaire à une énième mauvaise révolution. La première révolution était française, elle a détruit l'ordre naturel. Puis, il y a eu la révolution bolchévique. Aujourd'hui, nous assistons à la révolution des minorités sexuelles et de ce mauvais gender qui veut détruire l'ordre chrétien et la culture latine sur laquelle est bâtie l'Europe. Voilà.
Entre les épais remparts de la vieille ville et le fleuve, le café La Fin du Monde sert de quartier général aux organisations féministes locales. Une cellule très active qui a participé au grand mouvement qui secoue la Pologne depuis 2 ans en faveur de la défense des droits des femmes et dont l'ampleur a fait trembler les conservateurs au pouvoir. Ce soir, un documentaire est projeté sur la lutte des femmes pour maintenir le peu de crèches publiques qui restent après la chute du communisme. À Torun, seulement 30% d'enfants sont mis en crèche et il n'y a pas de volonté publique pour en développer un plus grand nombre. Dans celles qui existent, les employés, la plupart des femmes, sont payés des salaires de misère. Après la fin de la projection, un débat animé débute et on revient très vite à la personne du père Rydzyk.
Cette radio sert à généraliser le langage de haine. Les propos utilisés sont racistes, xénophobes, homophobes et contre les droits des femmes. Le père directeur bafoue sans arrêt non seulement les droits des femmes, mais de tous les êtres humains en général. Et cela en toute impunité.
Cette totale impunité a plusieurs fois poussé les organisations féministes à agir, notamment en organisant des happenings devant les bureaux de Radio Maria. Anna Lamers est l'une des organisatrices des manifestations devant les bureaux de Radio Maria, pointe du doigt l'empire financier du père Rydzyk.
Ce qui est énervant pour une partie de l'opinion polonaise, c'est que le père Rydzyk est non seulement au-dessus des lois, mais aussi profite d'un empire financier monstrueux. D'où lui vient cette fortune? Pourquoi nous faisons des blagues lors de nos happenings? Parce que c'est un spécialiste pour soutirer de l'argent. Il le soutire à l'État. Et il en soutire à ses auditeurs. On en parle même avec une certaine admiration. Quel homme d'affaires exceptionnel, quel businessman. Mais ce gars se repaît de la naïveté des gens, de leur besoin d'être sauvés. Alors je pense que c'est moins un homme d'affaires exceptionnel qu'un exceptionnel escroc.
Le Gazeta Wyborcza, le plus grand quotidien du pays, a l'une de ses rédactions régionales à Torunia. Les locaux se situent au troisième étage d'un joli immeuble en plein centre de la vieille ville. Tomasz Cieroński, journaliste économique dans le quotidien, a mené plusieurs enquêtes sur les financements de l'empire médiatique du père Rydzyk.
Depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, toutes les fondations et institutions liées au père Rydzyk ont été dotées par l'État polonais à la hauteur de 150 millions de zloty, soit 35 millions d'euros. Une partie de ces financements proviennent du budget polonais, l'autre partie des fonds européens. Prenons l'exemple du projet géothermique. La construction de la centrale thermique à hauteur de 5 millions d'euros a été financée par les fonds européens dotant les énergies durables. C'est le ministère de l'écologie polonais qui a reçu ces fonds de l'Union européenne, qu'il a ensuite versé à Perytzik. Un autre exemple, les formations organisées pour les employés des tribunaux. Les cours sur la tenue devant une caméra et sur la manière de transmettre les informations à la presse ont été pris en charge par le ministère de la Justice grâce aux fonds européens pour la formation des cadres. Le père Rydzyk a bien été financé par les fonds européens via les institutions polonaises.
Depuis que les conservateurs du droit et justice ont gagné les élections en 2015, l'argent gouvernemental afflue effectivement vers les caisses des différentes fondations dirigées par le père Rydzyk. Malgré cela, le père Rydzyk n'arrête pas de se plaindre et traiter les conservateurs d'avares. Ceux-ci font tout pour plaire au père influent. Ses auditeurs, qui représentent quelque 4 millions de personnes, ne sont qu'une fraction de la population, mais une fraction très disciplinée lors des votes. Les ministres et le chef du parti Jarosław Kaczyński se montrent donc souvent à l'antenne de la télévision entre femmes et sur les ondes de la radio. Décodage de ce mariage sulfureux par le sociologue Ireneusz Krzemiński.
Radio Ojca Rydzyka stworzyło tę praktyczną ideologię.
La radio du père Rydzyk a fabriqué une idéologie simple d'emploi que l'on peut appeler le national-catholicisme et qui sert de base aux actions du PiS. Le parti conservateur utilise cette idéologie toute faite, ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Il utilise le même langage, les mêmes expressions et des tournures caractéristiques de celles utilisées par Radio Maria. Par exemple, j'ai rencontré le Premier ministre Morawiecki bien avant son adhésion au PiS, du temps où il participait au Conseil économique du très libéral ancien Premier ministre Donald Tusk. À l'époque, il n'utilisait pas du tout le même langage. Je l'ai vu l'adopter. Je l'ai vu utiliser les arguments appartenant à la terminologie de Radio Maria. Quelle est cette terminologie? La polonité est fondée sur la tradition et cette tradition est exclusivement catholique. Ce qui implique une vision très traditionnelle de la famille où une femme est une femme et un homme est un homme. C'est une citation de l'antenne de Radio Maria. C'est aussi une vision très anti-libérale. Le libéralisme est défini comme un manque de respect vis-à-vis de Dieu et de la tradition, comme une philosophie résumée par « faites ce qui vous plaît ». Tout l'Occident est imprégné par le libéralisme et par le gauchisme, car tout cela est lié pour le père Rydzyk. Le gauchisme et le libéralisme, c'est la même diablerie. Cela entraîne aussi une redéfinition du citoyen. Pour eux, un bon citoyen est celui qui suit ce qu'on lui dit de faire, celui qui défend la bonne réputation de la Pologne, qui du coup ne lave pas le linge sale en public, car les ennemis n'attendent que ça. Donc, il doit croire en l'autorité et le pouvoir qu'il a choisi. Le gouvernement, c'est mieux, le pouvoir cerne mieux les problèmes de la société, donc il faut faire confiance en ce gouvernement au lieu de croire n'importe qui et créer une confusion inutile. C'est une église qui devient une secte, une église bien hérétique, à vrai dire.
La pièce de théâtre « La naissance de l'ennemi » a provoqué beaucoup d'émotions dont l'écho s'est répercuté partout en Pologne. Un proche du père Rydzyk a déjà déposé une plainte pour diffamation. Le père directeur a annoncé qu'il priait pour les auteurs de la pièce. Un programme de 2 heures sur l'antenne de Radio Maria dénonçait le théâtre comme foyer du mal et de l'idéologie gender. La metteuse en scène Aneta Goszczyńska et sa troupe n'en ont cure. Le spectacle se joue à guichet fermé. Les billets ont tous été vendus et le public en redemande. Le père Rydzyk n'aura peut-être pas encore le dernier mot.
Pologne, l'empire médiatique du père Rydzyk. C'était un grand reportage de Maya Szymanowska, réalisé par Annie Bro, qui se termine par les quelques notes de musique composées pour cette pièce de théâtre par Ella Orions.
Grand reportage, t'arraches les gueules.
Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Maya bien sûr, et Audrey Kislewski. On va profiter de votre regard d'historienne, madame, pour revenir sur le rôle de l'Église, peut-être plus largement en Pologne, dans l'histoire récente de la Pologne. On vient de voir là les liens très étroits qui sont tissés entre le père Tadeusz et le PiS, le père Tadeusz qui ne représente quand même qu'une frange de l'Église. Mais si on remonte dans le temps, l'Église a toujours joué un rôle politique en Pologne.
Oui, en effet, l'Église et la Pologne, c'est une longue histoire. Hein. Déjà, elle a été l'un des piliers de la renaissance nationale polonaise après les partages du 19e siècle. C'est-à-dire la renaissance en 1918 s'est appuyée sur cette Église. Et puis, durant toute la période communiste, elle a été un des piliers de la résistance au communisme, même si, évidemment, l'Église et une partie de ses clercs ont été aussi utilisés par le régime. Et puis, depuis 89, c'est tout logiquement que chaque gouvernement, finalement, quel que soit son bord, est très attentif à ne pas s'attacher à l'hostilité de l'Église et à avoir son soutien. Et si par exemple les lois restrictives de l'avortement sont votées dès 1993, c'est bien évidemment une illustration de ce soutien recherché
à la demande de l'Église, vous voulez dire.
En tout cas, c'est
avec son appui, quoi.
Bien sûr.
Total. Pour revenir quand même sur Radio Maria, on a entendu là le discours qui paraît aujourd'hui extrêmement homophobe, ultra-conservateur, plein de mots sont employés dans le reportage de Maya. Est-ce que dans les années, enfin en 91, quand la radio est fondée et au tout début, est-ce que le père Tadeusz a le même genre de discours ou est-ce qu'il a évolué?
Le discours, il me semble qu'il a toujours été avec ses mêmes fondements, hein, avec un ennemi. Alors, l'antisémitisme était très présent, hein, si ce n'est dans les émissions, en tout cas par la parole librement donnée aux auditeurs.
Au début des années 90.
Oui, et jusqu'à une période très récente où peut-être on peut constater maintenant depuis 2-3 ans un léger revirement peut-être sur cette question. En tout cas, ça ne veut pas dire que les auditeurs ou les animateurs créateurs de ces médias n'ont pas, absolument pas perdu leur conviction ni leur antisémitisme, simplement peut-être justement dans cette dans cette convergence avec le parti Droit et Justice, l'antisémitisme n'est plus si ouvertement exprimé qu'auparavant.
Maya, peut-être sur les débuts du père Tadeusz ou...
Moi, ça m'a beaucoup justement marqué cette évolution, cette ascension en fait du père Tadeusz Rydzyk. Quand j'y étais il y a 10 ans, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout le même pouvoir. Il est venu à la politique très tôt sur son antenne, mais finalement dans les faits, petit à petit. Hein, le premier peut-être tour de force, c'était en 2004, si je me souviens bien, lors des élections européennes, où c'est la première fois où officiellement il a soutenu un parti politique. C'était un petit parti qui n'existe plus d'ailleurs.
C'était pas le PiS à l'époque.
Mais c'est des gens qui sont aujourd'hui beaucoup justement qui ont rejoint les conservateurs pour la plupart. C'était la Ligue des familles polonaises. Voilà. Et étonnamment, ce parti, grâce au soutien, enfin on y a vu un lien direct en tout cas entre le soutien de Rydzyk et le score de ce parti, il est arrivé second lors de ces élections européennes en obtenant un score incroyable, je croyais que c'était 15%.
Alors qu'il était presque inconnu.
Exactement. Et je pense que si j'ai bien vu l'évolution, ça a donné à penser à Jarosław Kaczyński, donc le chef du parti conservateur
actuel.
Et c'est lui qui a décidé finalement de s'allier à l'électorat de Rydzyk, parce que ses ouailles, ceux qui écoutent, c'est un électorat extrêmement discipliné qui va voter ce que va dire le prêtre à l'antenne. Donc même si effectivement peut-être ils sont pas majoritaires, mais en tout cas ils vont voter.
Oui, ils se déplacent, ils vont aux urnes, contrairement peut-être au reste de l'électorat qui est peut-être un peu plus vacillant. Audrey Kieślewski, sur l'Église plus largement, au-delà du père Tadeusz, est-ce qu'elle a pris cette distance vis-à-vis de cette frange ultranationaliste qui a quand même un discours qu'on peut trouver répréhensible parfois, ou est-ce qu'elle adhère effectivement aux thèses du père Rydzyk?
C'est un petit peu comme ce qui était dit dans le reportage. Hein. L'Église a pris acte du rôle du père Rydzyk, de sa puissance, de son influence avec tout cet empire médiatique qu'il s'est constitué. Et il semble que une partie d'entre elles, en tout cas, ne rejette plus aussi vigoureusement qu'à ses débuts.
Mais majoritairement, vous diriez qu'elle est plutôt derrière lui ou plutôt contre lui? Est-ce qu'on sait le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Non? Pas vraiment, Maya.
Moi, j'espère que c'est pas la voie majoritaire. En tout cas, c'est ce qu'espéraient beaucoup de mes des gens que j'ai interviewés, les jeunes, surtout de l'université Copernic. On a entendu un jeune très croyant, très pratiquant, qui finalement s'identifiait absolument pas allant au discours de Père Rydzyk. Donc j'espère que non, mais c'est vrai. Alors, donnons un chiffre. Par exemple, à l'inauguration du sanctuaire de Père Rydzyk à Toruń.
Qui se trouve à côté de l'école que vous avez visitée. Oui.
Exactement. Il y a eu 50 évêques sur 170 que compte la Pologne.
C'est pas mal, hein?
C'est quand même pas mal.
Oui, et puis plein de politiques, pour le coup.
Je crois que tout le gouvernement était là.
On peut peut-être imaginer, enfin en tout cas je voudrais vous poser la question, Audrey, est-ce que on peut imaginer que l'Église catholique, disons traditionnelle, classique, majoritaire, a peur de perdre de l'influence aujourd'hui en Pologne et qu'elle voit que justement ce courant qu'on pourrait peut-être nommer fondamentaliste ou ultra, lui a le vent en poupe?
Oui, c'est non seulement la peur, mais de fait, hein, les études sociologiques montrent bien un déclin des croyances, un déclin des pratiques. Alors bien sûr, surtout si venant de France, on voit encore des églises pleines en Pologne le dimanche, mais voilà, toutes les études attestent déjà de ce déclin. Donc voilà la situation. Et effectivement, l'image véhiculée par le père Rydzyk et le succès qu'il obtient peut sembler être une réponse attractive pour une frange de l'Église.
Mmh. Moi, les chiffres que j'ai vus que dans un article notamment publié dans Esprit, qui est un sondage qui compare l'année 2005 à l'année 2018, où il disait que les pratiquants réguliers, donc ils vont quand même à l'Église une fois par semaine, ça, pour nous Français, c'est quand même vraiment très beaucoup, disons, sont passés de 58% en 2005 à 49% aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on voit un vrai déclin, Maya ? Vous diriez un vrai déclin ? 58%, 49% aujourd'hui, ça reste pas mal.
Ça reste pas mal. Je crois que c'est en prévision.
Mais on faut savoir qu'il y a certainement un décalage entre les pratiques qui sont le fruit de... des normes, en fait.
Une pression sociale.
Une pression sociale et les convictions profondes et le quotidien des jeunes Polonais, des jeunes Polonais surtout, hein, qui peut être en décalage avec leurs pratiques.
Alors, il y a eu récemment quand même un événement assez dramatique en Pologne, l'assassinat en janvier du maire de Gdansk, Paweł Adamowicz, qui est lui un homme, enfin qui était un homme très très pratiquant certes, mais pas du tout de la même obédience que le père Tadeusz, et qui a été poignardé. On y a vu le résultat de ce climat de haine, notamment dans les médias. Est-ce que c'est aussi votre lecture, Audrey Kieślewski?
Ah oui, moi j'ai été vraiment frappée par cette violence qui s'est malheureusement incarnée en acte avec cet assassinat en plein événement public, qui plus est d'une collecte extrêmement populaire et oui, c'est absolument troublant et je trouve que c'est vraiment ce qui a frappé les esprits à ce moment-là.
Maya, on dit qu'il avait été très attaqué par les médias, mais pas seulement les médias, j'imagine, du père Tadeusz.
C'est ce que Jarosław Kurski, qui est un des rédacteurs en chef du plus grand quotidien indépendant, on va dire, du pays, Gazeta Wyborcza, et qui était un proche d'Adamowicz, m'a dit, en fait, il savait que Paweł était attaqué depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, d'une manière extrêmement virulente via les médias sociaux, par la frange la plus ultra-catholique et ultra-nationaliste. Et il faut dire aussi que la personne, l'assassin, la personne qui l'a poignardé...
Qui était un ancien détenu. Ouais.
Était un ancien détenu, mais surtout sur scène, il a revendiqué la dimension politique de son acte. Il a appelé la plateforme civique, donc les libéraux, comme ceux qui étaient à l'origine de tous ces malheurs. Et c'est parce que Adamowicz était proche de la plateforme civique qu'il venait le poignarder.
Mais on peut-être dire que justement, quand je vous disais, il n'a pas été attaqué que par les médias du père Tadeusz, il avait aussi été attaqué, si j'ai bien lu, par la télévision, Info Continue, publique, non?
Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire, alors j'imagine qu'Audrey me dira la même chose, c'est que les médias publics aujourd'hui ont été mis à pas par les conservateurs et finalement...
Et subissent cette influence énorme.
Complètement.
Ouais. Oui, au point que il est parfois compliqué de faire la différence entre ce qu'on peut lire dans des médias connus pour leur position ultra-conservatrice, ultra-nationaliste, et la radio et surtout la télévision publique polonaise, qui reprend telle quelle les dépêches ou les informations de ces médias ultra-nationalistes.
Oui, et dont les patrons sont nommés quand même par le pouvoir aussi, pas par une autorité indépendante. Sans faire le parallèle du tout, bien évidemment, heureusement, avec l'assassinat dont on vient de parler, vous-même, vous êtes donc historienne et vous avez en France, il n'y a pas longtemps, organisé à l'EHESS un colloque avec des experts, vos collègues, et un colloque a été perturbé par qui d'ailleurs? Des ultranationalistes polonais qui sont venus vous embêter ou...
Écoutez, oui, par un petit groupe de Polonais installés en France, parfois depuis très longtemps, issus, ils s'étaient tout à fait présentés comme tels, par un club de soutien à un journal ultranationaliste, le club de journal Gazeta Polska, mais ils étaient aussi venus sous la houlette de leur prêtre, c'est très intéressant, Stanisław Jeszcz, qui a été quand même recteur de la mission catholique en France pendant 30 ans, décoré pour ses bons et loyaux services par le président de la République Duda en 2015. Donc il y avait cette dimension ultra nationaliste et cette dimension catholique vraiment conjointe présente dans ce
groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont perturber le colloque par leurs attitudes, leurs cris, leurs sifflements, et aussi en distribuant notamment des tracts, et notamment un qui était un faux Talmud dans lequel il était expliqué pourquoi les juifs ne pouvaient aider leurs prochains. Enfin voilà, un texte totalement moyenâgeux dont on peut supposer qu'il émanait de ce fameux prêtre.
Mmh. Il faut ajouter qu'ils n'ont pas du tout été contredits par les autorités polonaises elles-mêmes. C'est-à-dire ce groupe d'agitateurs.
Oui, pour les autorités polonaises, ce groupe n'existait pas. Il n'en était absolument pas question dans les comptes rendus, dans tous les médias et jusqu'au plus haut point, jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur lui-même, dans sa réponse à son homologue française demandant des éclaircissements. On lui a répondu qu'elle avait été mal informée. Autrement dit, cette vague d'agitation n'a absolument pas filtré dans les médias polonais et semble inexistante pour les autorités polonaises.
Ben on verra si cette influence énorme quand même du père Tadeusz va se poursuivre, puisqu'il y aura des élections en Pologne, élections générales avant la fin de l'année. Donc ça sera très intéressant à observer. Merci beaucoup Audrey Kiszelewski d'avoir participé au grand reportage signé aujourd'hui Maya Szymanowska. Merci Maya. Merci. À la technique Élise Le et à la réalisation Annie Bro. Merci à toutes les deux. Vous pouvez bien sûr réécouter ce grand reportage dès 6h demain matin sur notre antenne ou, quand vous le voulez, le podcaster également sur notre site franceculture.fr. Vous y découvrirez aussi des photos et une bibliographie mise en ligne grâce à Éric Chavroux.